messieurs, de nous avoir fait vivre en tout cas pour cette demi-finale de Ligue Europa. Allez, demain on se retrouve pour la Ligue 1 dans RTL Foot. On vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de Caroline Dublanc juste après la pub et les infos.
Mince, une fuite, en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical. RTL Matin, l'angle éco.
Les grandes entreprises internationales ne cessent de grossir, François, au point qu'elles représentent maintenant des forces économiques considérables dans nos pays.
C'est vrai, prenez LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. C'est aujourd'hui la première capitalisation boursière en France, de très loin. LVMH exporte aujourd'hui davantage que toute l'agriculture française.
L'angle éco à 7h35.
RTL. Il est 23h. Avant de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous toute l'info avec Charles Ducrot. Bonsoir Charles.
Bonsoir à tous. Sciences Po Paris et plusieurs campus toujours bloqués et occupés ce soir par les étudiants du comité Palestine en soutien aux populations de la bande de Gaza. Plusieurs locaux seront à nouveau fermés demain, annonce l'école. Plus tôt dans la journée, les étudiants ont pu débattre avec l'administration. La position adoptée par la direction reste décevante, jugent les protagonistes. 6 étudiants ont entamé une grève de la faim. Mobilisation également dans les universités américaines. Joe Biden s'est exprimé dépêché par ce contexte. Le président américain rappelle, je cite, que l'ordre doit prévaloir. À l'université de Californie à Los Angeles, un démantèlement particulièrement musclé a été opéré par la police. Que restera-t-il pour les futures récoltes dans les vignobles du Chablis, en Bourgogne, durement touchés par de violents orages hier soir? En attendant de chiffrer les dégâts, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot s'est rendue sur place cet après-midi. Laurent, viticulteur, est résigné et indifférent face à la mobilisation affichée du gouvernement.
Nous avons déjà eu un ministre suite à de la grêle sur le vignoble. C'était M. Le Foll à l'époque, donc en 2016. Et puis, derrière, il n'y en a pas débouché grand-chose d'autre qu'une catastrophe naturelle pour les gens qui étaient sinistrés dans le village. Et rien de plus, quoi. Voilà, c'était une mesurette sur le coup, quoi.
Et là, vous pensez que ça va être la même chose?
Oui, ça va être sensiblement la même chose. On pourrait peut-être nous mettre un truc comme quoi on peut décaler les cotisations, et puis c'est tout, quoi. Ça ne va pas changer la face du monde.
Propos recueillis par Margot Munoz pour RTL. Dans l'Oise et dans l'Aisne, des torrents de boue ont surpris des centaines d'habitants. Une femme de 57 ans est décédée, emportée après l'écroulement de la façade de sa maison. Carla Bruni-Sarkozy a été entendue pendant près de 3 heures aujourd'hui dans le cadre d'une enquête suspectée d'avoir joué un rôle pour protéger son époux Nicolas Sarkozy autour de la rétractation en 2020 de Ziad Takieddine, qui accusait l'ancien président d'avoir financé sa campagne présidentielle en 2017 avec des fonds libyens. Concernant d'éventuelles poursuites, aucune décision immédiate n'a été prise par les magistrats instructeurs selon une source judiciaire. Le football et l'OM a tenu bon face aux Italiens de la Atalanta Bergame pour la demi-finale aller de la Ligue Europa. Score final 1-1. Le suspense reste entier donc pour le match retour jeudi prochain. De son côté, le Bayer Leverkusen sort victorieux à l'aller 2-0 face à l'AS Roma. La météo pour demain, un temps gris et venteux pour la moitié nord avec des averses le long des frontières belges le matin. Des averses possibles aussi sur la côte atlantique. Des Pyrénées au sud-est, le soleil sera de retour mais il fera toujours bien frais. 1 degré le matin à Toulouse, 4 à Lyon, 8 pour Bordeaux et Nantes, 9 à Paris et Metz, jusqu'à 14 degrés en Corse. Au meilleur de la journée, vous compterez 13 à 16 degrés pour la moitié nord et 15 à 19 pour la moitié sud. Les courses avaient lieu ce soir à Chantilly. Il fallait jouer dans l'ordre à l'arrivée. Le 10, le 13, le 3, le 12 et le 7. Il est 23h03 sur RTL. Merci de nous écouter. Vous avez rendez-vous maintenant avec Caroline Dublanche pour Parlons-nous.
Bonsoir Charles.
Bonsoir Caroline.
Et oui, on est ensemble jusqu'à minuit et demi et on vous retrouvera à minuit.
Tout à fait. À tout à l'heure.
Alors, à tout à l'heure. And we're down,
we go, go, go. Bonne nuit sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
Ça peut vous arriver.
Le matelas, il a cet énorme défaut. Vous ne savez pas ce que vous achetez à l'intérieur. Ça peut être fait à partir de mousse. Et ce sont les matelas premier prix qui coûtent pas cher. Mais quand vous le regardez de l'extérieur et avec un bon camelot qui vous fait l'article en vous expliquant que votre dos va rajeunir grâce à ça, ça peut être de la mousse, ça peut être des ressorts en sachet. Sauf qu'évidemment, pour 2 000 euros, on lui a mis un matelas premium. Mais à l'intérieur, c'était probablement de la mousse. Donc, un premier prix.
Le journal des arnaques, c'est tous les matins à 11h. Dans Ça peut vous arriver sur RTL.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, je vous parlerai des ombres et lumières d'une des plus grandes civilisations de l'humanité, celle d'un pays, l'Iran.
L'Iran, comme on dit là-bas.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
RTL. Jusqu'à minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir, merci d'être fidèle à Parlons-nous en dépit de l'heure tardive. Soirée écourtée en raison du football, alors je vous invite sans plus attendre à appeler le standard de Parlons-nous. Violaine et Paul vont se faire un plaisir de vous accueillir au 09 69 39 10 11 sous le regard de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Nous sommes à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi et impatients de vous entendre. 09 69 39 10 11, parlons-nous sur RTL. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Merci. Alors moi je voudrais évoquer mon histoire. J'avais essayé déjà d'appeler.
Oui.
C'est un peu particulier dans le sens où j'ai été mariée 3 fois.
Oui.
Mes 3 maris sont décédés.
Ah bon?
Les 2 derniers dans mes bras et puis mon premier mari. J'avais divorcé, mais j'étais restée en lien. Il y avait énormément de tendresse entre nous. Et lui, il y avait toujours beaucoup d'amour pour moi. Et la veille de son décès, il m'a aussi appelée. Si vous voulez, lui, il n'est pas mort dans mes bras. Mais c'est comme s'il était mort avec moi, quoi, quelque part. Et j'ai 63 ans.
Oui, vous êtes relativement jeune pour vivre comme ça des décès.
J'ai vécu des choses difficiles, mais en même temps, c'est ce que j'expliquais à Paul. Je suis quelqu'un, de très joyeux, de très optimiste. Et puis, même ce qui m'est arrivé, qui sont quand même des tragédies, si vous voulez.
Mais oui.
J'ai toujours réussi à rebondir. Alors, en fait, peut-être parce que j'étais confrontée très jeune à la mort. Et puis, en plus, j'ai fait toute ma carrière d'infirmière et de cadre de santé en soins palliatifs, en accompagnement de fin de vie auprès des jeunes, des moins jeunes.
Ah, oui.
Et j'ai fait une carrière en gériatrie aussi. Donc, tout ça, si vous voulez, ça aide. Mais en même temps, quand on le vit, c'est autre chose. Je l'enseigne aussi. C'est complètement différent. Et là, je me retrouve à 63 ans. Mon dernier mari donc est décédé au mois d'août 2020.
Oui, c'est encore récent, oui.
Et c'est encore récent, et j'ai rencontré donc 2 hommes qui sont amoureux de moi, et ils sont adorables, et en même temps, tout de suite, je leur ai dit, mais... Si vous voulez, moi, j'ai envie de parler de ça, en fait, c'est de ce blocage que j'ai qui me, quelque part, me hérisse le poil, dans le sens où c'est des hommes qui pourraient correspondre à des profils où je pourrais être amoureuse, que j'étais très amoureuse de mes 3 maris, en fait. Mais là, du coup, je bloque, mais complètement, quoi, complètement. Je sais pas comment expliquer.
Là, c'est la première fois que vous éprouvez cela, puisque vous avez vécu. Enfin, c'est quand même un parcours de vie particulier. 3 maris décédés. Vous dites que malgré tout, vous êtes pleinement dans la vie, que vous avez surmonté. Alors la mort est presque un. Il y a quelque chose de familier. Qui vous est familier dans votre travail, dans...
Et ça a commencé très très jeune,
oui,
j'ai accompagné mon grand-père, qui est mort à domicile, j'avais 16 ans. En fait, si vous voulez, c'est vrai que la mort me côtoie, ou je la côtoie, je ne sais pas comment dire, depuis très longtemps.
Oui.
Et j'en ai fait ma carrière aussi professionnelle, et je l'enseigne, et je le transmets.
Peut-être que ce n'est ce que vous avez vécu précocement, à l'âge de 16 ans, auprès de ce grand-père, a aussi orienté votre choix de carrière.
C'est possible. C'est fort probable.
C'est pas parce qu'à 16 ans, en général, c'est pas un âge où on accompagne. Que vous soyez si bien sûr que ça soit votre premier deuil, votre grand-père, mais vous me dites que vous l'avez accompagné.
Oui, j'allais chez lui, il est mort d'un cancer de l'œsophage. Il avait une soixantaine d'années. Et je me rappelle très bien, il me dit, regarde, alors il buvait, il était éthylotabagique. Hein. Il me dit, regarde, j'arrive même plus à boire, regarde, j'arrive même plus à avaler, regarde, je crache du sang et tout. Et je l'ai vu se dénutrir, se dégrader.
Et
j'allais quand même chez mes grands-parents, ben, pour essayer, sans formation pour le coup, là. De les accompagner.
Vous y alliez seul? Ou vous étiez accompagné de vos parents?
Non, j'y allais seule. Ils habitaient pas tellement loin de...
Oui, et vos parents, ils vous disaient quoi?
Mes parents, on disait rien. Mon père a toujours eu très très peur de la maladie, donc il est décédé aussi. Il est décédé en 2020. Il est décédé en 2020.
Ah, votre père.
Mon père et mon troisième mari.
Et votre troisième mari.
La même année. D'accord. Donc j'ai perdu mon père et mon troisième mari la même année en 2020. Mais en fait, ça leur faisait peur la maladie. Et moi, je me dis, mon grand-père, il était super costaud et tout, il est comme il est, mais c'est pas de sa faute. Enfin, je sais pas. J'avais déjà ce sentiment à l'époque, j'essaye de me rappeler, qu'il fallait quand même pas les laisser tout seuls, tous les deux.
Mais oui, j'entends cela. Mais on peut se dire, c'est pour ça que je me demandais où étaient vos parents qui étaient, les enfants de ce grand-père. Parce que pour une jeune fille de 16 ans, quand même, quand vous me parlez de, c'est une fin de vie avec la maladie, avec le cancer, avec votre grand-père qui vraiment vous, il y a des images qui peuvent être très crues et très violentes pour une toute jeune fille. Qui marque, en tout cas, d'ailleurs, vous m'en parlez, ça
oui,
vous a marqué, fatalement.
Je les vois, ces images, forcément.
Ce sont des images quand même angoissantes. À un âge où la mort semble très loin.
Oui.
Donc, peut-être que, je ne sais pas, après, vous dites, vous avez fait des études infirmières, c'est ça, vous êtes...
C'est ça.
Oui. Oui, c'est ça, le soin.
L'école d'infirmière, et c'est vrai, j'étais tout de suite, j'ai ressenti une sensibilité particulière dans l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Oui, ben oui. Oui, c'était quelque chose de connu et de familier.
Oui.
Pour vous.
Oui.
Mais, alors, c'est vrai que vous en parlez, d'ailleurs, on sent dans dans votre intonation, enfin, comme s'il y a quelque chose qui demeure, il y a plein de vitalité dans votre voix, comme si, mais en même temps, donc vous semblez dire, ça a été un compagnonnage depuis longtemps, y compris dans votre métier, mais là, vous me parlez de ces deux hommes qui vous tournent autour, qui vous plairaient, mais vous bloquez. Donc c'est il y a ça. Quelque chose qui se passe là quand même.
Là oui, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe parce que dont un qui est aventurier, qui est libre, le deuxième aussi est libre, mais il est vraiment dans ma mouvance de liberté, d'aventure, de voyage, de tout ça. Je me dis, mais ce mec-là, je l'aurais rencontré ne serait-ce que 20 ans avant, je serais sûre que je serais tombée... Enfin, j'aurais pu être très amoureuse de ce mec-là,
oui,
quoi.
Mais
et là,
vous...
je me dis, mais 63 ans, il n'y a rien qui te rattache. Il est libre. Et
oui, comment ça, il n'y a rien qui vous rattache?
Je suis libre aussi, dans un sens.
Mais vous avez peur, et
en même temps, je pense que j'ai peur d'en accompagner un quatrième. Il m'a dit, celui-là, qu'il avait eu un cancer de la prostate. Bon, ça s'est bien passé, il a été opéré. Je sais pertinemment que les cancers de la prostate, on s'en sort sans problème. Quand c'est pris à temps, enfin tout ça, je le sais, mais ça n'empêche que en accompagner un quatrième, pour moi,
ça serait trop.
J'anticipe de trop et j'arrive pas à me sortir de là.
Oui.
Mon fils qui a perdu son papa, il avait 9 ans, qui a connu donc le deuxième, qui connaissait mon premier mari aussi parce qu'il l'a vu, il le connaissait, il le trouvait rigolo et tout. Mon fils a connu les trois en fait. Et l'autre fois, j'en parlais avec lui, il me dit, mais maman, est-ce que tu peux pas comprendre que peut-être que c'est cet homme-là qui va t'accompagner pour une fois et non pas toi qui va l'accompagner. Et du coup, je me suis dit, mais oui, il a raison quand même. Et en même temps, ouais, quelque part, mon fils a raison, et en même temps, il me dit, non, mais c'est, et si c'est le contraire, ça recommencera une quatrième fois, c'est pas possible.
Mmh. Oui. Enfin, en même temps, il y a, c'est quelque chose où personne n'a de prise là-dessus. Vous lui en avez parlé à cet homme d'ailleurs de votre passé ?
Oui.
Oui, ça peut être angoissant aussi pour.
Pour lui aussi, mais oui. je voulais être, enfin pour les deux d'ailleurs, je voulais être honnête avec ces deux hommes-là.
Non, mais parce que comme si vous étiez, vous dites, enfin, la mort, enfin, vous dites, je sais pas si elle fait partie, elle vous accompagne, elle, vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'est pas banal. Donc comme si c'était quelque chose d'inévitable, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire que si vous formez à nouveau un couple, ça va se reproduire, dites une quatrième fois. Ouais. Donc il y a quelque chose que vous avez intégré presque, et malheureusement la vie, enfin qui relève, comment dire, presque comme si c'était, c'était votre destin.
Ouais, de,
les hommes
ça.
Que vous ou les, parce que les gens que vous aimez, vous les perdez. Mm-hmm. C'est pas simple à vivre. Parce que c'est différent de ce qui se passe dans votre métier. Parce que vous me dites, j'en fais mon métier, j'en parle. Oui, d'accord. Alors, il y a déjà, si vous faites de la formation autour, il y a la théorie, il y a la pratique dans votre métier d'accompagner ou vous accompagner des personnes qui sont en fin de vie. Le cadre, bien sûr que ça aide. Mais face à quelqu'un qui nous est cher... Quand bien même vous avez cette formation, on est aussi démunis que tout un chacun.
C'est ça, c'est ça. Ça, c'est totalement vrai.
Mais je me souviens d'ailleurs à travers ses livres, mais Christophe Fauré qui avait fait l'émission pendant un été, enfin qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur l'accompagnement sur la mort, sur l'accompagnement de fin de vie, et qui disait que quand il y a été confronté en ce qui concernait sa mère, il ne savait plus rien. Enfin, toutes les notions qu'il pouvait avoir, tout ce qui, ça disparaît. Dans ces cas-là, on se retrouve ou enfant ou, enfin, l'affectif qui parle.
Ah oui, et puis on fait des. Je vois quand j'ai perdu le papa de mon fils. J'ai fait des choses, je l'ai forcé à manger alors qu'il n'avait pas faim, alors que j'arrête pas de dire que la mort naturelle, c'est pas. On meurt pas de faim. On n'a plus faim, on n'est plus en capacité de vivre. Tout. Et j'ai fait la même erreur que les familles font.
Mais oui, mais parce qu'à ce moment-là, ce moment-là, vous vouliez manger. L'appétit, c'est signe de bonne santé.
C'est signe de vie.
C'est signe de vie. C'est vous vouliez maintenir en vie. Vous disiez, s'il mange, s'il arrive à manger, il va vivre.
Il va rester un peu plus longtemps bien avec sûr. Nous. Alors même s'il savait qu'il était condamné. Donc j'ai fait oui, mais ça j'en suis.
Mais alors il y a quelque chose autour de ce lien aussi. Ça. Peut être compréhensible, mais de se dire, au fond, les gens que j'aime, ils vont mourir, je vais les perdre.
Oui.
Je comprends que vous ayez peur de prendre ce risque d'aimer, puisqu'aimer, c'est perdre.
C'est ça.
Mais ça ne vous a pas empêché, c'est ça qui... C'est pourquoi maintenant ? Parce que vous me dites vous-même, vous les avez aimés, vos maris, et vous vous êtes mariés trois fois. Et trois fois, malheureusement, vous vous êtes retrouvés à devoir les accompagner, vous les avez perdus. Mais ça ne vous a pas empêché de vous relancer dans l'aventure jusqu'à présent, et même dans l'aventure du mariage.
Oui, mais en fait, là, je me dis aussi, parce que j'ai fait une carrière non seulement en soins palliatifs, mais en gériatrie, et j'enseigne aussi... tout ce qui concerne le vieillissement physiologique de la personne âgée. Et du coup, je me dis, mais là, t'arrives dans une dernière étape.
Vous avez 63 ans.
Et oui, j'ai 63 ans.
La dernière étape,
il y a... Enfin, Et pourtant, je vous assure, hein, je suis en pleine forme, pleine de vitalité. Oui. Et d'ailleurs, les gens me disent, mais comment tu fais avec tout ce que tu fais? T'as un planning entre le sport, les remplacements, les formations, les ceci, les cela.
Oui, mais c'est peut-être une façon aussi de lutter contre quelque chose. Comme si des angoisses, là, vous rattrapez. Des angoisses, vous me parlez du vieillissement, vous me parlez de la mort. On parle de la mort depuis le début de notre échange. Et vous me dites, j'arrive à la dernière étape. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi la dernière étape?
La dernière étape, c'est parce que je suis retraitée, je continue encore à travailler un petit peu.
D'accord. Donc, il y a un renoncement, là.
Je me dis que quelque part, mais ça y est, la retraite, oui. Ça veut bien dire qu'on rentre dans la dernière grosse étape de sa vie, hein, parce que j'ai pas du tout, moi, j'espère bien
oui, mais
vivre
c'est,
encore longtemps. Bah,
voilà, c'est une étape où il y a l'arrêt de la vie professionnelle, mais où ce n'est pas l'arrêt des liens, l'arrêt de l'amour, de l'amitié ou d'investissement dans plein de centres d'intérêt. Ça peut même être l'occasion de découvrir ou d'investir de nouveaux centres d'intérêt. Mais il y a quelque chose qui... c'est ça, le paradoxe. C'est-à-dire que vous me dites ces deuils, vous les avez, semble-t-il, surmontés, et il y a quelque chose qui bloque sur cette étape, oui. Que vous qualifiez de dernière, qui correspond à la retraite, mais d'un métier que vous avez très fortement investi, qui a un sens très profond pour vous.
Oui.
Aussi.
Aussi, oui.
Parce que je pense que vos premiers mots, ça a été de me dire que vous avez été confronté très précocement à la mort et dans sa façon la plus difficile, la plus âpre. Vous étiez vraiment presque dans ce corps à corps où vous voyez le corps de votre grand-père qui a orienté certainement aussi ce choix de vie professionnelle. Et là, la retraite vient réveiller quelque chose de douloureux chez vous, semble-t-il. D'angoisse de...
Oui, puis c'est la soixantaine, ouais, mon grand-père c'était 60, c'est possible.
Je pense que c'est pas tant peut-être par rapport à cet homme, mais par rapport à vous-même, là. Parce que, alors d'ailleurs c'est curieux parce que vous me dites qu'il y en a deux qui vous tournent autour, mais vous avez jeté votre dévolu sur un.
Ben, plus
l'aventurier.
Exactement. Oui. Oui, j'ai plus. Donc. Mais en même temps, le deux. Enfin, je vois les deux.
Ah, vous voyez les deux, mais ils ne se connaissent pas alors.
Non.
Non. Mais alors, vous les voyez.
Dans des. Enfin, comment dire. En fait, il y en a un des deux qui sait, qui connaît mon adresse, et l'autre non. L'autre, c'est
caché.
Voilà, c'est. Voilà.
Mais vous avez une relation avec les deux.
Oui.
Vous avez noué une relation amoureuse avec les deux.
Une relation
affective, amoureuse, sentimentale, platonique pour le moment.
Un peu plus, même sexuelle,
un peu plus.
On va dire, faut le dire.
Bon, ben pour une dernière étape, c'est pas mal. Vous croquez encore la vie à pleines dents.
Ah, mais je vis au présent.
Elle est plutôt réjouissante vue
oui,
sous cet angle-là.
Parce que je vis au présent. Oui. J'essaie vraiment de profiter tous les jours des belles choses.
Oui,
que
oui,
la vie
j'entends
offre.
Ça.
C'est vraiment mon mode de vie, quoi. Et tout le monde
peut-être, justement.
Tous mes amis me connaissent sous ce jour-là. Et,
oui.
Et c'est vrai. Mais je veux pas non plus les. Enfin. C'est ça. Je me dis, bon.
Peut-être que ça vous rassure, ces deux.
Je me dis, peut-être qu'ils vont décrocher, mais en fait, ils décrochent pas.
Ça fait combien de temps que vous avez
cette... Ils me rappellent, mais ça fait. Ça fait plus de 2 ans maintenant.
Ah oui.
Que je les connais.
D'accord, et jusqu'à présent, oui, vous avez réussi à faire en sorte qu'ils ne connaissent pas l'existence de l'autre.
C'est ça.
Oui, mais votre cœur penche plus vers un, au bout de ces 2 ans.
Exactement, ça c'est sûr, malgré tout.
Et alors lui aimerait que vous... Enfin, que votre relation prenne une autre tournure. Vous me parlez de voyage, il fait des projets avec vous.
Il me pro- propose, des choses et en même temps, pour l'instant, en fait, on a des modes de vie qui n'arrivent pas vraiment à s'accorder.
Pourquoi ?
Parce que lui, il est retraité, il travaille plus du tout, oui. du tout. Or moi, je suis obligée de continuer encore à travailler pour des problèmes financiers. On va dire ça comme ça. D'accord. Je vais pas vous raconter tout.
Oui.
Et donc, je suis obligée de encore pendant une bonne année et demie à faire un complément de retraite, voilà.
D'accord. Et
mais
vous lui en
sinon,
avez parlé ?
Il n'y aurait pas ça, je pense. Oui, il est au courant. Oui, oui, oui.
Et il est prêt à, enfin, différer peut-être ses projets de voyage.
Lui, il voyage tout seul. Hein,
oui, enfin... il voyage tout seul.
Ah oui, ça l'empêche pas du tout de partir. Mais
c'est voilà, vous que ça angoisse finalement.
Si je lui disais, ben tiens, je pars avec toi, il serait d'accord.
Il serait ravi.
Probablement, oui.
Oui, mais alors, c'est peut-être pas anodin pour vous d'être en lien avec deux hommes alors que il y en a un qui vous plaît davantage. Mais comme si c'est pas prendre le risque de s'investir sur un seul lien, comme si ça vous soulageait d'une certaine façon.
Ah, je sais pas, ouais, peut-être.
Mais ce que vous dit votre fils est en même temps plein de sagesse, je trouve. C'est-à-dire que jusque-là, c'est toujours vous qui avez vécu la perte d'un être cher. Mais alors, il vous renvoie peut-être aussi sans le vouloir évidemment, mais en vous disant que dans ce compagnonnage, c'est plein d'amour pour vous. C'est-à-dire que vous ne soyez pas seul à traverser l'existence et que vous puissiez avoir un homme qui prend soin de vous. En vous écoutant, je me dis parce que il y a comme si la mort vous suivait de très près, de trop près. Est-ce que vous dites parfois de façon, j'entends que vous êtes quelqu'un de rationnel hein, à côté de cela, mais est-ce qu'il vous arrive de vous dire que ceux qui s'approchent trop près, ceux que vous aimez, ils prennent un risque?
Non,
vous n'avez pas cette idée que vous pourriez, peu trivialement, porter la poisse.
Oui, je peux être la veuve noire, comme certains.
Alors, les veuves noires, c'est différent, parce que les veuves noires, elles sont très actrices. Les veuves noires, elles font mourir leur...
Voilà. Alors, il y en a quelquefois qui m'ont dit ça, comme ça. Mais j'ai toujours pris avec énormément de dérision et d'humour et de distance. Hein.
Mais derrière cela, ça montre aussi l'angoisse qui surgit. Et en fait, depuis tout à l'heure, on parle de quoi ? D'angoisse de mort.
Oui,
d'angoisse. Et les angoisses de mort, au niveau de l'inconscient, perdre, renoncer à quelque chose, ça éveille ces angoisses-là. Et vous me parlez de votre retraite à venir. Et c'est une source de tourment pour vous. C'est une perte.
Ah oui, c'est un deuil, c'est sûr.
C'est un deuil, oui.
L'activité professionnelle.
C'est un deuil parce que ce métier avait sens et peut-être vous a aidé dans les deuils intimes que vous avez eu à vivre. Paradoxalement, je ne sais pas.
C'est possible. C'est fort possible. C'est, je me suis dit, mais cette carrière, pas par hasard, parce que du coup, ça m'a permis justement, malgré ces tragédies, de rester quelqu'un de joyeux.
Oui, et d'être très dans la vie.
Et très dans la vie, malgré tout.
Oui, oui, oui.
Et je me dis, quand je pense à eux, parce que je pense à eux tous les jours, je me dis, mais ils doivent... Enfin, quelque part, c'est ce qu'ils auraient voulu. C'est même enfin, de toute façon, le papa de mon fils me l'avait demandé en disant, tu me promets, tu resteras pas seul, tu continueras. Hein. Et c'est vrai que, et puis même le troisième qui était gay, qui était un amour, qui était adorable, je suppose qu'il aurait aussi souhaité la même chose pour moi.
Ça, on ne sait pas. Mais ça a décuplé votre appétit de vivre.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Mais si ce n'est qu'il y a cette ombre de la retraite. Et que ça,
malgré
c'est
tout, il y a cette,
il y a ce deuil, a cette, finalement. C'est un une autre forme. Et c'est un deuil aussi.
Et c'est un deuil aussi parce que la retraite, ça veut dire aussi qu'on passe sur cette partie de la vieillesse en plus que j'enseigne. Et je connais bien pour avoir travaillé aussi en gériatrie. Quoi.
Oui, mais entre connaître.
Et puis le vivre aussi.
Et le vivre. Mais. La vieillesse. Alors, il y a la vie. Vous n'êtes pas dans cette étape-là du grand âge.
Non, pas du tout.
Ou des personnes qui, puisque vous avez travaillé en gériatrie, qui malheureusement perdent leur capacité, parce que on peut d'ailleurs arriver dans un grand âge en ne perdant pas, enfin. Ses facultés physiques, intellectuelles, en gardant son autonomie. Il y a des personnes qui ont cette chance, qui continuent à vivre chez elles, à être autonomes, à aimer, à avoir des liens. Mais vous voyez, ça vous ramène, c'est comme si là, tout d'un coup, il y avait une prise de conscience et le deuil à faire de quelque chose. Parce que c'est peut-être là-dessus, en fait, qu'il vous faudrait un peu réfléchir plus que sur. C'est pas tant cet homme et le fait de le perdre. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus intime qui se joue et qui ravive aussi d'autres, toutes ces pertes que vous avez eues à vivre. À qui vous avez donné du sens aussi à travers votre métier, certainement. Enfin. Qui a été, ça a pu permettre de réparer certaines choses, ou d'y donner du sens.
IKEA. On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait, je vous sers quelque chose.
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Un facteur qui entre en ligne de compte, mais qui a quelque chose qui vous tient là. Qui vous maintient en vie. Et c'est comme si on enlevait cela et tout d'un coup, vous rentriez dans la dernière étape qui est du vieillissement et avec la mort au bout. Mm-hmm. Enfin, tel que vous en parlez, en parlant de dernière étape, c'est symbolique. Hein.
Oui,
c'est tel que vous, au fond de vous, vous le ressentez.
Oui, c'est probable, oui.
Ce qui veut dire que... vous n'avez pas jeté votre dévolu sur n'importe quel homme, c'est un aventurier. C'est-à-dire qu'il vous signifie qu'il y a plein d'aventures à vivre, qui restent à vivre, de nouvelles aventures. Mais vous, il faut que vous trouviez votre équilibre avec quelque chose qui fasse sens, peut-être, pour vous, malgré tout. Vous ne pensez pas ?
Oui.
Je vais me tourner vers Paul, qui est en train de consulter un peu la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous.
Non, je ne suis pas là encore. Il y a Isabelle qui dit « Moi, je suis tout le contraire de vous. Très jeune, j'ai été confronté à la mort, au deuil. Et aujourd'hui encore, contrairement à vous, jamais je n'aurais fait votre métier. Je ne peux pas me retrouver seul dans une pièce avec un mort. Je ne peux pas toucher un mort. Je comprends ce que vous redoutez par rapport à une liaison future. » Et puis, il y a le coup au bras noir aussi qui dit « La retraite, c'est pas une dernière étape, mais une nouvelle étape. » Tino Rossi disait « La vie commence à 60 ans. Alors foncez, profitez de la vie. Ouais. » Mais attention, ne jouez pas avec le feu parce que vous pourriez perdre la pourra pour l'ombre.
Oui, c'est un risque. Ouais, c'est vous beau, y avez ça. Songé ?
Oui. Oui.
Parce que en maintenant ce lien avec ces deux hommes, alors là, c'est aussi vivre en accéléré, en intensément, mais c'est aussi ne pas faire de choix, ne pas renoncer. Mais il y a quelque chose chez vous qui est peut-être un peu douloureux en ce moment, qui est de l'ordre du renoncement. Bon, il faut peut-être y réfléchir un peu. Vous avez le temps, vous avez encore pendant un an et demi à travailler.
Ouais.
Ça vous laisse le temps de voir qu'est-ce que vous voulez faire de cette période de votre vie, plutôt qu'étape d'ailleurs, pour ne pas perdre votre vitalité. Mais on entend à votre témoignage, en même temps, il y a beaucoup de... J'entends que vous êtes quelqu'un qui est pleinement dans la vie et joyeux. Et d'ailleurs, souvent, avoir peur de la mort, alors, dit comme ça, c'est évidemment, c'est des angoisses qui nous percutent le plus. Mais certains, cette peur peut être paralysante. Et c'est souvent avoir peur de la vie. Hein. Or, vous, de l'avoir côtoyé de très près, d'en avoir fait votre métier, a fait aussi que vous avez... mordu la vie, enfin vraiment à pleine bouche, à pleine dent, savourer tout. Et on voit que vous êtes aussi certainement dans vos histoires d'amour actuellement là-dedans, dans cette forme d'avidité, ne rien lâcher, ne renoncer à rien. Et il y a l'idée quand même de la perte derrière.
Oui, c'est vrai, c'est un peu ça, quoi, parce qu'en fait, c'est eux qui m'appellent et moi je les appelle pas. Hein.
Oui, mais ils, par leur désir, par le désir qu'ils vous témoignent aussi, ça vous fait vous sentir pleinement vivante. Et c'est justement, pas en bout de course. Loin de là. Parce que c'est finalement, quel que soit notre âge, c'est le désir qui nous maintient vivants.
Oui, c'est vrai.
Et le désir, qui n'est pas seulement le désir sexuel, la libido, c'est le désir. Alors, il y a le désir de vivre, mais le désir d'être en vie, le désir de lien, le désir de découvrir, le désir de voyage, le désir de... vous voyez, le désir, c'est ce qui nous fait vivants. Bon, donc... il y a matière, hein. Vous avez un bon terreau.
Oui, ça donne vraiment du sens à la vie, en
oui,
fait, c'est vrai.
Oui, oui. Mm. Vous êtes dans cette articulation-là, un peu, qui mérite un peu d'être un peu élaborée, je crois. Bon, vous allez y arriver.
Oui. Je vous remercie beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Merci Caroline et merci
échange.
Paul, merci beaucoup.
Bonne soirée Corinne, au revoir.
Bonne soirée à tous, merci, au revoir.
Au revoir.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.
Tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do.
The Pretenders sur RTL, I'll Stand By You. Ça vous rappelle la chanson du film Le Cœur des Hommes, c'était en 2003.
Ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed.
Le magazine UFC Que Choisir publie des résultats inquiétants à propos des crèmes solaires.
Oui, alors que les indices 50 et 50 plus sont censés apporter les plus hauts niveaux de protection aux rayons ultraviolets, 4 d'entre elles la tiennent qu'une protection qui correspond à un indice 30. Et on rappelle que les cancers de la peau sont en constante augmentation depuis 30 ans et que l'exposition au soleil en est malheureusement la principale cause.
Les conseils santé du docteur Jimmy Mohamed, c'est dans Ça va beaucoup mieux, tous les jours à 8h35.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
23h41, c'est Parlons-nous un peu écourté ce soir en raison du foot, mais nous sommes à vos côtés en direct jusqu'à minuit et demi. Et si vous désirez me parler, c'est très simple, vous appelez le standard au 09 69 39 10 11, 09 69 39 10 11. Et si vous souhaitez donner votre point de vue par rapport à un témoignage, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous ou par SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par message. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir. Et ravie de vous accueillir.
Également, très contente de vous avoir au téléphone. Ce que je disais à Paul, c'est la première fois que j'appelle. Donc
oui.
Ça a été assez rapide, donc je suis assez contente de vous avoir.
Ah ben, tant mieux, moi aussi. Et de quoi voulez-vous me parler alors ?
Alors, je voulais vous parler du relationnel que j'ai avec mon père,
oui.
Où j'aurais besoin d'avoir un peu votre conseil.
D'accord.
Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte.
Oui.
Donc, je suis la fille unique de mes deux parents. Mes parents ont malheureusement divorcé quand j'avais 4 ans. J'en ai 44 aujourd'hui, donc ça date un peu.
Oui.
Et en fait, si vous voulez, bon, le divorce c'est pas forcément très bien passé puisque mon père, bon, a mal vécu. Hein, c'est ma mère qui a pris la décision de s'en aller.
Oui.
Et il a très vite fait appel hein, de manière à avoir ma garde. Donc j'ai été élevée par mon père. Je voyais ma mère hein, pendant les vacances, mais voilà, c'était mon père qui s'occupait.
Mais c'est pas banal à l'époque. Enfin,
banal, effectivement. Oui,
et en plus, tel que vous énoncez les choses, c'était un peu en représailles.
C'est l'analyse que j'ai faite.
Oui, c'est l'analyse que vous en faites, ou que votre mère vous a fait.
Ma mère a jamais cherché à prendre parti ou m'orienter.
Oui.
Enfin, voilà, elle a jamais cherché à m'influencer.
Mais ça a dû être douloureux pour elle, pour votre mère.
Ça a été très douloureux pour elle. Mmh. Ça, je l'ai appris aussi assez tard. Oui, ça a été très douloureux, sachant qu'en plus j'étais son premier enfant,
oui.
L'enfant unique pendant un certain temps. Mm. Elle a refait sa vie avec un homme avec
oui.
qui après coup elle a eu un enfant.
Oui.
Et donc effectivement moi je continuais de vivre avec mon père en ne voyant ma mère que pendant les vacances scolaires.
Oui, c'est peu hein. C'était même pas les week-ends, vous étiez petite.
Non, bah non, parce que ils n'habitaient pas la même région l'un et l'autre, donc forcément,
oui,
pas
oui
trop
ça a été
choix.
Une vraie séparation dans votre vie à 4 ans.
Oui,
enfin, une vraie explosion, vos parents se séparent et votre mère, vous ne la voyez plus que très peu, quoi, pendant les vacances.
Voilà. Donc effectivement, bon, tout ce qui est tendresse, câlin, etc., bon, j'en ai pas vraiment eu.
Il ne l'était pas, câlin, votre père ?
Pas, alors, on a vécu ensemble tous les deux, vraiment tous les deux pendant,
oui.
Je dirais, à peu près 4 ans.
Oui.
Parce que vers l'âge de 8 ans, en fait, il a fait la rencontre d'une femme.
Oui.
Avec qui, bon, ils se sont installés, en fait. Elle est venue habiter chez nous, entre guillemets.
Oui.
Donc, effectivement, il y a eu une forme de cassure, si vous voulez, dans le sens où il n'y avait plus cette espèce de complicité qui avait existé entre mon père et moi. Mmh. Bon, elle venait, elle arrivait. Bon, après, j'étais plutôt contente qu'elle vienne. Hein. Moi, j'étais pas du genre. J'étais toujours contente d'avoir quelqu'un parce qu'étant fille unique, je m'ennuyais un petit peu toute seule dans mon coin. Donc, pour moi, c'était de la nouveauté et j'ai plutôt bien accueilli la nouvelle.
Elle était gentille avec vous ?
Elle était gentille, elle s'est forcée d'être gentille avec moi. Mais mon père est plutôt du genre taiseux, plutôt taciturne. Je pense qu'il avait encore du ressentiment par rapport au divorce avec ma mère. Donc, je l'ai toujours connu à partir de là, un peu en colère, si vous voulez. C'était plus forcément pareil. Bon, c'est tout. Et donc on a vécu comme ça tous les trois pendant un certain nombre d'années, hein, oui. jusqu'à mes 20 ans, date à laquelle j'ai eu mon diplôme et date à laquelle je lui ai annoncé que maintenant j'allais me lancer, mener ma carrière.
Qu'est-ce que vous avez eu comme diplôme ?
J'ai eu un BTS.
D'accord.
Bon. Voilà.
Il était fier de vous ?
Alors, c'est marrant que vous posiez la question parce que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment ressenti. Dans toute mon enfance, en fait, j'ai eu mon brevet des collèges, j'ai eu mon BTS, j'ai eu mon bac, hein, bien avant ça.
Oui.
J'ai toujours réussi ce que j'avais à faire. Oui. Et malgré ça, j'ai jamais eu de sa part
être valorisé, féliciter, une reconnaissance.
C'était pas, alors peut-être qu'il ressentait au plus fond de lui, mais il me l'a jamais dit.
Comme il m'exprimait pas.
Qu'il m'aimait ou voilà. Donc c'est vrai que et je pense qu'aujourd'hui, j'ai toujours un besoin de reconnaissance qui, je pense, vient de là. Effectivement, il a jamais fait preuve de fierté par rapport à aux choses que j'ai pu faire dans ma vie.
Oui, il ne vous l'a pas exprimé. Vous en auriez eu besoin, ça vous aurait fait du bien.
Il ne l'a pas exprimé. Donc voilà, donc arrivé l'âge de... Alors, ce que j'avais expliqué aussi à Paul pour le débrief juste avant, c'est que, quand sa nouvelle épouse est arrivée, bon, ça se passait très bien. Pour autant, j'ai ressenti une mise à l'écart et notamment le jour où ils se sont remariés, ils se sont mariés tous les deux, j'ai pas été invitée.
Ah bon ?
J'ai appris ce remariage en rentrant de vacances, à la fin des vacances.
Comment ça ?
Mais
vous aviez quel âge ? 20
J'avais à l'époque j'avais 14-15 ans.
Mais ils sont mariés en tout petit comité entre deux témoins ?
Très certainement. Les oncles et tantes, vraiment en très très petit comité. Et en rentrant de vacances d'été, mon père me prend entre quatre yeux, me dit on s'est mariés. Alors on venait de déménager, on avait changé de maison. Très certainement parce que sa nouvelle épouse est-ce que je peux comprendre tout à fait vivait mal le fait de vivre dans l'ancienne maison.
Ah oui, il était resté, d'accord, vous étiez resté.
Voilà, donc je pense qu'elle a dû vouloir, et c'est tout à fait légitime, avoir sa propre maison et reconstruire sa vie de manière, reposer des bases saines.
Oui, mais ce qui est curieux, c'est que ça ne soit pas parlé. Vous me dites que vous aviez 14 ans,
J'avais l'âge de raison, depuis longtemps.
Et vous auriez pu être présente, vous connaissiez, elle faisait partie de votre vie, puisque depuis l'âge de vos 8 ans, vous viviez ensemble. Comme si c'était quelque chose qui se faisait dans le secret, en tout cas où vous êtes exclue.
J'ai été exclue de ça. Et à partir de là, je me suis un peu posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je suis vraiment chez moi ? Qu'est-ce que je vaux ? Quelle est ma légitimité dans cette maison ? Donc bon, c'est tout. J'ai commencé une certaine réflexion, un peu de rancune quelque part, sans pour autant le montrer. Mais effectivement, j'ai commencé à exprimer intérieurement un peu de défiance vis-à-vis de ma belle-mère, puisque je me suis dit, mais parce que c'est quelqu'un de bon qui a certainement eu une enfance pas très très simple. Hein. Elle a eu elle-même un relationnel avec ses parents très 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 compliqué et déjà un rapport à sa mère qui était très compliqué, ce qui fait que assez régulièrement, quand on discutait, elle comprenait pas déjà que je puisse aimer ma mère. Enfin, c'est quelque chose, que pour elle, une mère, de toute façon, c'est pas. Enfin voilà, sa mère ne l'avait pas spécialement aimée, donc voilà, moi je devais même pas aimer ma mère, qui avait abandonné mon père.
Ça n'avait rien à voir.
Qui m'avait abandonné, alors que pas du tout.
Oui, elle projetait sa propre histoire, voilà. Ses propres sentiments. Et ils n'ont pas eu d'enfants, votre père et votre belle-mère.
Alors, au grand dam de cette femme, très certainement, parce que c'est pareil, elle m'en avait fait part. Enfin, je sais qu'à un moment donné, elle avait souhaité avoir un enfant. Elle n'a pas pu. Bon, je sais pas exactement pour quelle raison, si c'était physique ou autre. Bon. Toujours est-il que voilà, j'étais la seule enfant, j'étais la fille de mon père et voilà. Et au fur et à mesure du temps, j'ai senti cette mise à l'écart. Bon, le fait que je ne participe pas à leur mariage, le fait que je l'apprenne après coup.
Vous n'en avez pas parlé à votre père. Alors c'était un taiseux, mais à 14 ans, comme vous dites, c'est l'âge où aussi on est un peu parfois, enfin vis-à-vis de ses parents, un peu en rébellion, enfin. Oui. Vous l'avez, c'était intérieur, mais vous ne l'avez pas exprimé.
Pas du tout, parce que mon père a une très forte autorité. Il exprimait par le regard des choses. En fait, il m'a jamais frappé, m'a jamais donné la fessée, mais il suffisait juste d'un regard pour que je comprenne qu'il valait mieux que j'insiste pas. Ce qui fait qu'il y a plein de choses comme ça où j'ai pas cherché à comprendre, j'ai accepté.
Et vous ne pouviez pas.
C'était un peu compliqué.
Oui, vous aviez peur de. C'était prendre le risque du conflit, voire.
Pour vous donner un exemple, il y a une fois où on m'avait dit, tu sais, tes parents sont divorcés, d'accord, c'est une chose, mais tu sais qu'à l'âge de 12 ans, tu peux faire le choix d'aller revivre avec ta mère si tu le souhaites. J'ai juste commencé ma phrase un soir pendant un repas et mon père m'a répondu « écoute, c'est simple, tu vas aller voir ta mère, et tu vas faire tes valises et tu t'en vas et je veux plus jamais te revoir ».
Oh là là, c'est terrible.
Donc là, c'était assez violent. Donc j'ai compris que valait mieux plus que
c'est terrible, mais c'est terrible parce que, on voit la colère qu'il avait encore contre votre mère. Ouais, et malheureusement, c'est pas votre histoire. Et, non. Entre lui qui avait cette colère, ce ressentiment, votre belle-mère. Qui avait du ressentiment contre sa mère à elle, il n'y avait pas de place pour votre mère, même en parole. Vous ne pouviez pas l'évoquer.
Ah tout à fait. Ah non, il ne fallait surtout pas que je parle d'elle.
C'était deux univers complètement clos, quoi.
Ah j'ai appris très rapidement à jouer l'anguille, à parler de choses, à parler de mes vacances, par exemple, quand j'étais chez ma mère, sans jamais parler de ma mère. J'expliquais les activités que je faisais, mais jamais, à aucun moment. Et je ne parlais même pas de mon demi-frère, puisque ma mère s'est remariée et a eu mon frère 8 ans après moi. Et le jour où mon père a appris que ma mère allait avoir un enfant, il m'a engueulé. Il m'a dit, mais tu m'as jamais dit que ta mère était enceinte, qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a engueulé.
Oui, mais c'est un comble. C'est un comble puisque vous ne pouviez pas en parler. vous ne pouviez pas l'évoquer. On voit bien quand vous dites à l'âge de 12 ans, vous évoquez le sujet. C'est terrible. Il fallait choisir. C'est elle ou lui. Enfin, c'est vous étiez coupé en deux.
Ah c'est ça, de toute façon, après plusieurs années où j'ai réfléchi à tout ça, je me suis remémoré les épisodes, je me suis dit, de toute façon, c'est clair que j'étais son bouclier vis-à-vis, en fait, il voulait emmerder ma mère, clairement, et moi, je pâtissais, il faisait une espèce de transfert sur moi, très certainement, en plus, physiquement, je ressemble un peu à ma mère, donc manque de bol, donc que voilà.
Et votre mère, elle en disait quoi de cette situation? Parce que quand elle a eu justement votre petit frère, elle aurait peut-être aimé vous voir plus souvent, reformer une famille.
Ça a été très compliqué. Elle m'en parlait un petit peu, mais elle voulait pas non plus. Elle savait que c'était déjà compliqué avec mon père, donc elle voulait certainement pas me tirer par l'autre bras.
Oui, elle a eu cette intelligence-là.
Donc elle en parlait très peu. Bon, je sentais que c'était très compliqué parce qu'à chaque fois qu'on se séparait à la fin des vacances, bon, on était en larmes. C'était toujours très très.
Oui, c'était une déchirure.
Autant séparer de mon père, c'était moins compliqué que ma mère. Bon, j'en souffrais, elle aussi. Et je voulais pas la faire souffrir plus. Donc, je lui disais tout le temps, écoute, un jour, je vivrai avec toi, je reviendrai. Mais ça sera plus tard. Peut-être quand j'aurai mon diplôme ou plus tard, quoi. Mais je gardais ça en tête. Et non, ma mère ne critiquait pas mon père. Elle simplement, et encore aujourd'hui, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas cette attitude. Elle dit, je comprends pas, il a toujours voulu avoir un enfant, quand t'es né, c'était merveilleux. Elle dit, je peux comprendre qu'il n'ait pas accepté que je m'en aille, qu'on divorce, mais pourquoi est-ce qu'il te dit ces choses-là et pourquoi il se comporte comme ça? Bon.
Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui ne passe pas? Au fil du temps, généralement, la souffrance s'atténue. Oui, il avait rencontré cette femme avec qui il s'est marié. Mais ce qui est terrible, c'est que forcément, la colère qu'il gardait contre votre mère, elle rejaillissait, elle a dû rejaillir, on le voit bien, à certaines fois sur vous. C'était barré du côté. Vous sentiez bien qu'il y avait un interdit, que vous ne pouviez pas évoquer votre mère. Vous étiez vraiment coupé en deux. Et le choix, à 12 ans, c'est très violent de dire à un enfant, si tu veux aller vivre chez ta mère, c'est fini avec moi. Donc, il y a deux camps... irréductible, c'est une violence psychologique, ça, qui s'exerçait, dont il n'avait pas forcément conscience, mais
peut-être
c'est
pas,
lourd.
il était dans sa colère, et puis pour lui c'était normal. Bon, on était dans les années 80 où les enfants, la psychologie, tout ça, on était encore peut-être pas aussi frileux qu'aujourd'hui, c'était ça. Et j'ai continué à vivre avec lui. Donc après ça, j'ai passé enfin mes diplômes. Et quand j'ai eu donc 20 ans et que j'ai passé mon BTS, je lui ai dit, écoute, voilà, maintenant j'ai passé mon bac, j'ai eu mon diplôme, tout comme t'as voulu. Maintenant je vais vivre avec maman, quoi.
Mais oui.
Et là, il m'a regardé, mais il m'a dit quoi? Mais comment ça? Ça fait des années que je t'en parle. Enfin, je t'ai toujours dit que je partirais après mon diplôme.
Oui.
Et ça a été un peu un cataclysme dans sa tête. Enfin, il m'a dit des choses, des choses affreuses, en me disant que ma mère, c'était la dernière des uns. Ma belle-mère s'y est mise aussi. Enfin, tout y est passé. D'accord. Et là, on s'est retrouvés un peu en pleurs, lui et moi. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. J'ai mesuré toute la souffrance qu'il y avait derrière tout ça. Le fait que je m'en aille, pour lui, c'était un deuxième divorce.
Oui, comme si vous l'abandonniez, c'est ça. Vous êtes comme votre mère, pour lui, de son point de vue.
Et je lui ai dit, mais papa, je t'aimerai tout le temps. Enfin, tu comprends pas que je t'aime. On se l'est jamais dit, mais enfin, je te le dis, voilà. Bon, ça s'est passé. Bon, je suis partie pendant les grandes vacances. Et après, je lui ai annoncé que des grandes vacances, j'allais poursuivre mon séjour chez ma mère. Oui. Et que je ne reviendrai pas, en tout cas pas tout de suite, que j'allais... commencer à travailler et puis voir pendant un an comment ça se passait, et si ça se passait bien, je restais. Si ça se passait mal, peut-être qu'éventuellement je pouvais revenir, pour laisser cette porte ouverte, encore une fois, pour pas le faire souffrir.
Vous étiez très délicate, vous veillez.